Bienvenidos a este informativo de Radio
France. Paris Live with me, today's headlines.
Accent du monde. Philippe Le Caplain.
Bonsoir et bienvenue dans Accent du Monde. Comme tous les vendredis soirs, nous allons revenir sur les temps forts de l'actualité de la semaine avec le regard des rédactions du Monde de Radio France Internationale, un regard différent, parfois décalé, qui fait la richesse de votre radio. Tout d'abord, les événements qui se sont imposés à nous tous, puis dans la seconde partie d'Accent du Monde, ceux qui ont fait un choix particulier, une actualité traitée sur RFI et nulle part ailleurs. Ce soir, dans ce studio, pour la rédaction en anglais, Christina Okello.
Good evening.
Et Aziz Fard de la rédaction Persane.
Bonjour, salam, Douloud.
Bonsoir à vous deux. Alors, c'est une crise diplomatique sans précédent qui secoue le Golfe. Elle oppose le Qatar, accusé de soutenir le terrorisme, à l'Arabie Saoudite et ses alliés. Elle fait planer le spectre d'une guerre froide dans une région jusqu'ici réputée pour sa stabilité. Et ses conséquences font même planer un doute sur l'organisation de la Coupe du Monde de football en 2022. Aziz Fard, pourquoi autant d'impact, pourquoi autant de bruit, alors que le Qatar est un tout petit pays, mais un pays qui a son importance à plus d'un titre?
Le Qatar est un des pays particuliers du Golfe parce que dans les grands problèmes de la région, pourrait-on dire, le Qatar a eu une position pas comme les autres, on pourrait dire. Le Qatar n'a jamais été aussi anti-iranien que les autres pays du Golfe à des moments où il a été question de plus de tension, d'augmenter la tension entre les deux entités. Le Qatar s'est opposé, mais le Qatar a eu aussi un comportement un peu plus libre vis-à-vis des talibans, Al-Qaïda, tout ça.
Mais avant cela, là vous nous parlez de l'époque contemporaine, avant cela, le Qatar, c'est un pays qui a été colonisé.
Oui, tout cela est peut-être dû à l'histoire de ce petit pays qui a été tour à tour administré par les Ottomans. Auparavant, il y avait les Seljoukides, les différentes dynasties des musulmans qui ont régné là, mais finalement, ça finit après les Ottomans, ce sont les Portugais et finalement les Anglais qui ont administré ce pays. On peut peut-être trouver la raison de la particularité de ce pays dans son histoire qui est différente des autres coins ou des autres pays, disons, du Golfe.
Le Qatar, par rapport aux autres émirats qu'il y a dans la région, a une spécificité, c'est ça que vous nous dites ?
Oui, je me demandais si c'est pas un pays spécialement chiite parce que ils sont plus proches de l'Iran, mais en fait non, ce n'est pas de ça que ça vient. Bahreïn, qui est l'autre petit pays du Golfe, est plus chiite que le Qatar, mais pas le Qatar et le Qatar. Donc, on pourrait dire a une culture politique différente et la chaîne Al Jazeera qui était aussi créée dans ce pays.
On en reparlera tout à l'heure, oui.
Oui, on montre aussi la particularité de...
Christina Okello, les conséquences de cette crise diplomatique sont importantes. Hein. Cela fait maintenant plusieurs jours qu'il y a eu, on va dire, cet affrontement diplomatique et on continue d'en parler. Ça montre bien que ça laisse des traces et ça va en voir encore des conséquences.
Ça laisse des traces justement sur le plan humain, Philippe. Le blocus du Qatar décrété par ses voisins fait et craindre l'émergence d'une pénurie alimentaire. On a vu cette semaine déjà de pays comme la Turquie qui a pris la défense de Doha, envoyé de par avion sur place pour éviter que des gens meurent de faim. Et dans les journaux britanniques comme le Financial Times, on considère que ce blocus aura un impact négatif sur des familles entières. Il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de mariages mixtes dans la région. Donc comment peut-on imaginer qu'un homme saoudien qui par exemple est marié à une femme qatari décide de la quitter et donc toute son entreprise et sa vie de plein gré, car le blocus marche dans les deux sens. Si les qataris sont expulsés, les saoudiens, Bahreïni et émiratis à Doha seront également expulsés. Donc, ça va être un déchirement total.
Alors, parlons de cette visite qu'a effectuée Donald Trump à Riyad. Tous les émirs du Golfe étaient réunis, y compris l'émir du Qatar. Tout semblait aller bien, et puis finalement, les choses ont dégénéré. Comment est-ce que la situation a pu si mal tourner et si vite?
C'est la même question qu'on se pose aussi à la rédaction anglaise. Et d'après Mitchell Belfer du Centre de l'information sur le Golfe à Rome, ce sont les ambitions démesurées du Qatar qui ont agacé ses voisins. Et cette crise ne date pas d'hier. Écoutons-le.
Qatar and the GCC are in some ways a very important network in the gulf of stabilization.
Alors, que dit Michel Belferrand en substance?
Il dit que Qatar et les autres pays du Conseil des coopérations du Golfe ont toujours été une force de stabilité dans la péninsule persique. C'était eux qui ont servi de repoussoir à Saddam Hussein et qui ont calmé les ambitions de l'Irak et même de l'Iran. Mais dès que tu as l'une des membres qui commence à jouer solo et à ne plus respecter les codes de bonne conduite, ça va déstabiliser ce pacte entre eux. Donc, Doha va à l'encontre de ce pacte en flirtant avec l'Iran et de plus en plus avec les Turquies qui a posé ses valises en quelque sorte le mois dernier avec sa base militaire, et les conséquences pourraient être désastreuses pour la stabilité de la région. Donc Mitchell et d'autres experts incitent le Qatar à jouer collectif et à calmer ses ambitions. Donc ça implique rompre ses liens avec le Hamas et les frères musulmans et à résister aux appels du pied de l'Iran.
Alors justement, l'Iran, Aziz Fard, on ne peut pas parler de cette crise sans aborder les relations arabo-iraniennes.
Oui, le Qatar, même si ils ont soutenu un peu Saddam Hussein contre l'Iran, mais lorsque, à des moments particuliers, des conflits s'intensifiaient, le Qatar a eu un comportement d'apaisement, un comportement même plutôt pro-iranien. Le regroupement des pays du Golfe arabe qui est créé en 1981 avec l'aide des Américains était peut-être une occasion ou un organisme qui aurait permis aux pays arabes d'attaquer éventuellement l'Iran. D'après les documents de Wikileaks cités par notre collègue Ali Reza dans notre site internet, il était question à ce moment-là que l'Arabie Saoudite attaque l'Iran, et c'est à ce moment-là que le Qatar a, contrairement à cette décision, est allé signer un accord de paix avec les Iraniens. Donc, le Qatar a eu un comportement comme ça de la recherche d'apaisement, et du coup, lorsqu'il a organisé des réunions avec des talibans ou des choses comme ça aussi, on peut considérer que c'est peut-être un peu dans cet esprit de vouloir essayer de trouver une solution pour rassembler les différents composants du monde musulman qui étaient et qui sont toujours un peu en train de se taper les uns sur les autres.
Alors, au soir où nous parlons, la position de l'Iran par rapport à Qatar dans cette crise, pour résumer, Aziz. La position de l'Iran face au Qatar dans cette crise, si on veut la résumer, qu'est-ce qu'on peut en dire?
L'Iran pourrait... Je pourrais dire, l'Iran cherche aussi de son côté l'apaisement, mais je ne dispose pas d'éléments précis.
Pour ce qui est de Al Jazeera, vous en parliez tout à l'heure, donc c'est la chaîne de télévision qatari, hein, la CNN qatari, si l'on peut dire. C'est aussi un objet de conflit entre ce pays et les autres pays arabes. Ça a toujours été le cas, d'ailleurs.
Oui, on est étonné de l'existence même d'une chaîne de télé comme ça dans un pays du Golfe. Ce sont des pays qui sont plutôt connus pour être fermés. Mais apparemment, cette chaîne a été créée avec un noyau de journalistes qui avaient travaillé pour la BBC auparavant. Seulement, autour de ce noyau, ils ont embauché à Qatar des journalistes arabes de tous les pays du Golfe, mais néanmoins avec une domination locale. Et donc, cette télévision a été un objet de tension, mais un objet qui a été utile pour le Qatar pour mener à bien ses propres politiques.
Christina Okello, sur le plan diplomatique, il y a donc, on le voit, de quoi s'inquiéter. Et vous dites, vous, que l'attitude ambiguë des États-Unis dans cette crise dérange. Pour quelle raison?
C'est peu dire, Philippe, parce que la volte-face de Donald Trump, qui au départ soutenait l'isolement du Qatar et qui aujourd'hui appelle à l'unité, en partie parce qu'il a dû se rappeler que Washington a une grande base militaire au Qatar, a fait halluciner tout le monde. Il n'est pas évident de comprendre comment il compte obtenir la stabilité en vendant des armes au Qatar, 36 avions de combat pour être précis, qui a été annoncé hier. L'hebdomadaire The Economist, par exemple, écrit qu'avec Trump au pouvoir, on n'est pas prêt de voir une sortie de crise bientôt. Et Scott Lucas, un professeur d'histoire américaine à Birmingham, partage le même avis. Écoutons-le.
Almost a knee-jerk reflex when he hears the word terrorism or extremism.
Quelle est l'analyse donc de Scott Lucas sur Trump?
Scott Lucas dit que Trump est sur les qui-vive et réagit sans réfléchir dès qu'il entend parler du mot terrorisme qu'il a promis de combattre durant sa campagne. C'est pour ça qu'il était si prêt à croire les accusations de l'Arabie Saoudite contre Qatar, même si ce n'a jamais été prouvé que Doha finançait le terrorisme. Les raisons de son incrédulité, explique Scott, se trouvent dans sa volonté d'être aimé, comme nous tous d'ailleurs. Et l'Arabie Saoudite lui a montré beaucoup d'amour durant sa visite à Riyad le mois dernier, les traitant comme un chef d'État très estimé. Donc en somme, conclut Scott, Trump ne connaît rien du tout au Moyen-Orient et d'où ses maladresses.
Christina Okello pour la rédaction anglophone de RFI, donc sur cette crise diplomatique qui secoue actuellement la région du Golfe.
Accent du monde. Philippe Le Caplain.
Vous le savez, si vous écoutez RFI, le groupe État islamique a pris le contrôle de Tora Bora dans l'est de l'Afghanistan. Tora Bora, dernière forteresse d'Oussama Ben Laden pour échapper aux Américains après le 11 septembre. Le réseau de grottes particulièrement difficile à pénétrer avait alors fait l'objet d'une âpre bataille de bombardements intenses en décembre 2001, jusqu'à ce que Ben Laden gagne les zones tribales et se réfugie au Pakistan où il a été abattu lors d'un raid des forces spéciales américaines, c'était en 2011. L'organisation de l'État islamique a revendiqué également un attentat suicide commis hier soir contre une mosquée chiite de Kaboul. Il y a eu au moins 4 victimes. Bref, Aziz Fard, tout cela montre que la guerre continue bel et bien en Afghanistan.
Oui, oui, malheureusement, non seulement la guerre continue, mais il y a des moments où on a l'impression que ça augmente, le nombre des attaques a été nombreux ces derniers temps. Et donc, on a eu une première attaque à Kaboul qui a fait beaucoup de victimes. Le problème, c'est que le lendemain, lorsqu'ils voulaient enterrer des victimes de cette attaque, il y a eu d'autres attaques. Et là, les gens avaient du mal à comprendre parce que autant la manifestation a été une cible facile, mais autant la cérémonie d'enterrement, c'était une cérémonie qui aurait pu être protégée par les forces de sécurité nationale. Mais si ça n'a pas été le cas, à ce moment-là, les gens franchissent le pas en disant que peut-être que eux même ils sont pour quelque chose dans ces attaques. En fait, on est entré dans une sorte de paranoïa actuellement parce que dans les différentes manifestations qu'il y a eu, on accusait le gouvernement. On disait même que c'est à l'intérieur du palais présidentiel qu'il y a des mains invisibles qui travaillent pour donner lieu à ce genre d'attaques ou au moins pour leur faciliter le travail ou pour les aider.
Il y a donc l'exaspération des Afghans qui vont donc manifester, et pas que dans le pays d'ailleurs.
Oui, on a eu aussi une manifestation à Paris. On a un son de cette manifestation qu'on peut écouter ensemble.
Donc ça se passait quand? Ça se passait où?
C'était dimanche dernier, c'était à Paris, place de la République. Et en fait, derrière cette intervention, on entend aussi des slogans où ils demandent la démission non seulement de Rani, le président de la République, mais aussi de Abdullah, l'autre président de l'Afghanistan, le président exécutif. C'est aussi pour dire que, en fait, les gens ne font plus confiance aux responsables politiques actuels.
Donc, les responsables politiques défaillants, du côté militaire, pas de victoire décisive. Comment expliquer finalement que rien ni personne ne parvienne à mettre fin à cette guerre?
Cette guerre, oui, qui dure depuis 40 ans en Afghanistan. À ce sujet, j'ai écouté attentivement les propos d'un des analystes qui s'appelle Ahmad Saidi, que nous avons diffusé sur nos antennes, qui parle des conflits qui nous dépassent. Ahmad Saidi.
Quelle est son analyse, Aziz?
Oui, il parle après une grande réunion qui a eu à Kaboul à propos de la sécurité, dans laquelle des ambassadeurs et des personnalités étrangères de toutes sortes avaient participé. Il dit que ce sont des gens là qui participent à cette réunion pour tenir des beaux paroles, mais qui ne font rien concrètement, parce qu'en fait ils ne sont pas capables de faire quelque chose de déterminant, parce que d'après son analyse, il y a un conflit US-Russie, il y a un conflit Inde-Pakistan, il y a un conflit Iran-Arabe qui nous touche en Afghanistan. En fait, l'Afghanistan est devenu le lieu d'application de tous ces conflits. C'est ce qu'on appelle une guerre par procuration. En fait, nous subissons une guerre qui ne nous appartient pas. C'est pour ça que les gens qui ont participé à cette réunion, ou même ceux qui prétendent faire quelque chose pour mettre fin à cette guerre, concrètement, ils n'en seraient pas capables, parce que ça leur échappe.
Les Afghans, donc, qui n'en peuvent plus de cette situation, qui sont défiants par rapport à leurs dirigeants, vous en parliez tout à l'heure, mais plus largement, qui en ont assez de la manière dont la société afghane, la vie politique est organisée.
Oui. Et ça, c'est pas seulement qu'ils en ont marre maintenant. En fait, l'Afghanistan actuel, l'Afghanistan moderne, existe à peu près depuis 3 siècles, et pendant ces 3 siècles, ça n'a jamais marché comme il faut. En fait, c'est que dès le début, dès l'avènement de l'Afghanistan, c'était un pays qui a été mal défini, parce que l'Afghanistan, c'est un territoire immense où il y a toutes sortes de peuples. Il y a les Pashtuns qui sont les vrais Afghans. En fait, le pays leur a été attribué, ils se considéraient comme majoritaires, mais en fait, ce ne sont qu'une minorité parmi d'autres, parce que l'Afghanistan est un pays composé de plein de minorités. C'est une minorité plus grande peut-être que d'autres, mais seulement, voilà, le problème, c'est que d'un point de vue culturel, c'est le peuple persan qui est le peuple majeur du coin, et donc c'est un peu comme si l'Afghanistan marchait sur la tête, et c'est pour ça que on n'y arrive pas, on a du mal à y arriver.
Et tout cela est surveillé avec beaucoup d'attention par la rédaction persane de Radio France Internationale. La première ministre britannique s'est rendue tout à l'heure au chevet des victimes de l'incendie dans un immeuble de Londres, après avoir essuyé de vives critiques jusque dans son propre parti pour ne pas les avoir rencontrées plus tôt. Alors, le bilan du sinistre qui a détruit une tour d'habitation de 24 étages s'est alourdi. Il atteint désormais au moins 30 morts. Il y a de nombreuses personnes encore portées disparues. Theresa May est aussi fragilisée par sa campagne électorale ratée pour les élections législatives qu'elle avait organisées pour avoir les coudées franches afin de négocier le Brexit. Patatras, Theresa May comptait arriver triomphante à Bruxelles. Elle se retrouve impopulaire, sans majorité, alors que les discussions sur le divorce avec l'Union européenne vont bel et bien commencer lundi. Christina Okello, vous avez couvert ces élections anticipées, législatives anticipées. Est-ce que vous avez été surprise par le résultat ?
Pas vraiment, Philippe. Même si les sondages la donnaient gagnante, les gens dans la rue avec qui je parlais disaient le contraire. Cette élection était présentée comme un nouveau référendum, en quelque sorte, sur Brexit. Or, les gens me parlaient de la crainte par rapport à l'avenir, sur les coupes budgétaires dans les services publics qui ont eu un impact désastreux sur le NHS, le système de santé national, en grave crise où il n'y a pas assez de médecins et des files d'attente à n'en pas finir.
Comme si Theresa May n'entendait pas les souffrances de son peuple.
Oui, tout à fait. Et la goutte qui a fait déborder le vase était cette mesure catastrophique du Parti conservateur de faire payer les personnes âgées leurs propres soins, dénommés par ses détracteurs comme la dementia tax. En gros, s'ils n'ont pas assez d'argent, ils doivent vendre leur maison pour pouvoir payer leur traitement. C'était ridicule. Donc, les personnes âgées qui sont les électeurs les plus fidèles, qui votent toujours pour les Tories, donc ça crée un vrai malaise. Et Graham Brady du Parti conservateur, que j'ai pu rencontrer à Manchester, a reconnu que les campagnes de Theresa May étaient désastreuses. Écoutons-le. Donc, juste pour résumer, il dit que sans aucun doute, cette soi-disant dementia tax a été très impopulaire et a froissé plus d'un des électeurs. Mais il dit que May a compris et a vite abandonné la taxe. Mais il reconnaît que le dommage a déjà été fait. Il dit que ça aurait été mieux si elle avait parlé de l'économie, le taux de l'emploi qui bat en plein, le Royaume-Uni qui est en bonne santé financière. Mais tous ces atouts ont été mis de côté. En fait, Theresa May s'est laissée embourber dans des histoires. À un moment donné, elle a sorti de nulle part une nouvelle politique de sécurité qui était très mal passée aussi. Donc, en gros, elle donnait l'impression d'être capricieuse, de quelqu'un qui changeait d'avis sans cesse et très loin de l'image de stabilité et sérénité qu'elle voulait projeter.
À l'inverse, son adversaire Jeremy Corbyn a vu sa popularité grandir.
Oui, là où Theresa May avait du mal à toucher le public, Jeremy Corbyn, lui, excellait. Il adore les foules, n'avait pas peur d'aller défendre ses idées dans des débats télévisés, alors que Theresa May préférait envoyer ses ministres à sa place. Et elle a convoqué ces élections, mais l'impression qu'elle donnait, c'est qu'elle s'en fichait finalement et ne voulait pas en découdre avec les autres opposants. Le message d'espoir de Corbyn, au contraire, a touché les gens et surtout les jeunes. Ils ont été plus de 80% à voter pour lui. Comme Brigitte, écoutons très vite pourquoi.
Alors, que répond-elle ?
Donc, elle dit qu'en gros, les jeunes avant n'allaient pas voter. Ils croyaient que personne s'intéressait à eux. Mais Corbyn, avec son slogan « For the many, not the few », a su attirer leur attention.
Sur cette Angleterre oubliée. Merci à vous, Christian Okello. C'était Accent du Monde. Vous écoutez Radio France Internationale.